Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Cette semaine, vous l'avez compris, dans cette série des clés pour vivre, nous approfondissons ce thème de l'accompagnement spirituel avec vous, Suzanne Josépi-Testu. Et bonjour.
Bonjour.
Ravie de vous retrouver. Oui, sur ce terme d'accompagnateur spirituel, de directeur spirituel, souvent c'est un peu la peur, la panique. Qu'est-ce qui fait peur autour de l'accompagnement spirituel, au fond, en quelques mots? Pour introduire ce troisième entretien.
Je pense que ce qu'il fait peur, c'est d'avoir la personne qui a le désir d'être accompagnée, sait qu'elle doit se dire. Elle sait très bien que si elle va se mettre sous le regard de quelqu'un, c'est pas pour se contenter de la regarder, de lui faire des sourires. Elle a un besoin de se dire. Mais se dire, c'est se mettre à nu, comme on l'a déjà dit. Et ça fait toujours très peur, parce que tout être humain a peur du regard de l'autre, a peur d'être jugé, a peur d'être condamné, a peur d'être incompris. Il y a derrière ce regard souvent la vaine gloire. Donc je crois que beaucoup de personnes hésitent à entrer dans l'accompagnement parce qu'ils ont cette peur. Et en fait, tant qu'on n'est pas entré dans l'accompagnement, on ne peut pas comprendre que le regard de l'accompagnateur, c'est le regard aussi du Christ sur la personne. C'est un regard qui est rigoureux, bien sûr, mais c'est un regard d'amour, c'est un regard de miséricorde, c'est un regard qui ne juge pas, qui ne condamne pas, qui ne va pas porter un jugement sur la personne. C'est un regard qui va tout simplement dire à l'autre, ne crains rien, je suis avec toi. Et tu vois, nous sommes tous les deux sous le regard du Seigneur et nous avançons ensemble vers lui. Donc, ne crains rien. Et tant que la personne n'a pas franchi le pas de l'accompagnement, elle va rester dans cette crainte.
Au fond, on peut entendre oser se risquer.
C'est oser, il faut sauter, il faut oser ce risque. Et alors ce qui est très amusant justement, c'est que je crois que toutes les personnes qui sont entrées dans l'accompagnement, et moi la première, il y a fort longtemps, mais toutes les personnes je crois vivent cela, un jour elles demandent à quelqu'un, à une personne, il y a ce regard, cet échange qui se fait comme nous avons pu le dire, et elles vont dire à une personne, est-ce que vous acceptez de m'accompagner? Alors elles ont franchi ce premier pas, et puis il y a un rendez-vous qui se pose, il y a une première rencontre, et souvent la personne panique parce qu'elle se dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir bien lui dire? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Il y a l'intellect qui se met en mouvement, il y a toutes ces barrières qui se mettent en place et souvent je dis à la personne mais n'aie pas peur, ne crains rien, c'est le Christ qui va dire en toi. Et peut-être que la première fois, tu vas commencer par un silence, mais l'accompagnateur va écouter ce silence, il va le comprendre, il va simplement te regarder avec amour et avec tendresse. Et là, tu vas dire quelques petits mots, tu vas peut-être rien dire de tout ce que tu avais envie de dire. Mais les mots que tu vas prononcer seront essentiels parce que là, tu vas voir que tu es entendu, que tu es écouté, tu vas voir la présence de l'amour et là, tu entres en accompagnement.
Alors, j'aime bien vous nommer la présence de l'amour et dans cette présence de l'amour, de l'accompagnateur avec cette personne dont le désir était là de se faire accompagner, il y a cette autorité d'amour aussi dans l'accompagnement.
Oui, il y a cette autorité de l'amour et inconsciemment, c'est peut-être ce qui fait un peu peur parce que l'accompagnateur n'est pas là pour entrer dans une complaisance. Je dis souvent, il n'est pas là pour caresser dans le sens du poil. Et d'ailleurs, ça ramène aux personnes qui cherchent un accompagnateur et qui nous disent, J'ai eu tel accompagnateur, et puis j'en ai eu un autre, et puis j'en ai eu un autre. La personne n'est pas véritablement en recherche d'accompagnateur ou d'accompagnement. Elle cherche à entendre ce qu'elle a envie d'entendre. Donc, elle papillonne. Quand on a véritablement le désir d'être conduit vers Dieu, d'être conduit vers sa vérité intérieure, d'être conduit vers le Christ et de donner sens à notre vie, à ce moment-là, on va accepter l'autorité de l'amour, on va accepter le regard de notre accompagnateur, on va accepter d'être repris, d'être réajusté.
Donc on parle de correction fraternelle dans
l'accompagnement spirituel. Oui, c'est une correction fraternelle qui peut parfois surprendre, et c'est là où l'accompagnateur ne doit pas entrer dans une complaisance. Il ne doit pas avoir peur de perdre la personne. Il n'est pas là pour tricher. Il n'est pas là pour lui dire ce qu'elle a envie d'entendre. Il est là parce qu'il aime.
Il est pas
il
là
aime
dans
de
une...
l'amour du Christ.
Il n'est pas dans une relation de séduction.
Il n'est surtout pas dans une relation de séduction. Il n'est pas là pour garder la personne et avoir autorité sur cette personne. Simplement, le Christ a autorité. Il n'est pas là pour accomplir un pouvoir. Il n'est pas là pour diriger. Il n'est pas là, la personne, elle est libre et elle doit rester libre. L'accompagnateur est libre, il doit rester libre. Il est simplement là dans une responsabilité sous le regard du Christ qu'il a établi.
Alors parfois, il peut y avoir aussi des débordements, Suzanne. Tu dans l'accompagnement une prise de pouvoir de l'accompagnateur.
Alors là, on n'est plus accompagnateur, mais bien sûr. Mais si ça se produit, l'accompagnateur a alors besoin de faire un chemin de guérison sur lui-même. Parce que l'accompagnateur n'a pas à faire preuve de pouvoir. L'accompagnement, c'est être, se savoir toujours serviteur.
Alors comment discerner si je suis bien accompagnée, s'il n'y a pas un pouvoir de mon accompagnateur sur ma personne, Suzanne?
Alors à ce moment-là, il y aura autoritarisme. Il y aura autoritarisme. L'accompagnateur va donner des ordres. Et il ne va pas, l'accompagnateur ne va pas se mettre humblement sous le temps de Dieu, c'est-à-dire il va juger la personne, il va juger, il va la condamner, il va faire de la morale, ce n'est pas ça l'accompagnement. Je crois que l'accompagnateur a à se mettre au niveau de la personne, il est pas... Il n'a pas à se mettre sur un piédestal. Il est là pour regarder la personne, pour savoir où elle en est, où est-ce qu'elle en est. Il n'a pas à la juger. Il a à entrer dans le temps de la personne. Il a à entrer dans le temps de Dieu, même s'il voit certaines choses. Et souvent, l'accompagnateur reçoit la grâce du regard de lire dans le cœur. C'est une très grande grâce. Mais justement, il n'est pas là pour se servir de cette grâce. Il est là pour la mettre à l'œuvre selon Dieu. C'est-à-dire, il va regarder la personne et savoir qu'elle n'en est peut-être pas là. Elle ne peut pas entendre peut-être ce qu'elle devrait entendre parce qu'il voit sa souffrance. Et il va se mettre... sous le regard du temps de Dieu. Et puis peut-être qu'à un moment donné, la personne dira une parole. Et là, il va la saisir. Parce qu'il saura que la personne est en état d'entendre. Et là, il n'y a pas autorité. Il y a autorité de l'amour. Il n'y a pas pouvoir. Et il arrive même parfois qu'une chose se dise, parce que l'accompagnateur sait qu'il faut la dire, que c'est important pour la personne, pour l'aider à grandir, pour l'aider à rentrer dans cette liberté. C'est la seule chose, l'aider à grandir dans sa liberté. Et la personne a la possibilité de dire « Oui, je comprends ce que tu me dis. » Tu as raison, je l'entends. En effet, il va falloir travailler là-dessus. Mais tu vois, je ne suis pas prête, j'ai encore mal. Et là, l'accompagnateur va lui dire, ne t'inquiète pas. Nous allons déposer tout cela dans la prière. Ne t'inquiète pas. C'est le Seigneur qui a, quand tu seras prête, le Seigneur te donnera la possibilité de réentendre cette chose et nous la travaillerons ensemble. Eh bien, je peux vous dire que dans ces cas-là, la prière, bien sûr, l'accompagnement, c'est prier avant, pendant, après, en permanence pour la brebis du Seigneur. Et je peux vous dire que dans ces cas-là, les choses se posent très, très, très vite. La personne rappelle, nous dire, tu sais, j'ai déposé tout cela, je suis prête à en parler. Et là, l'avancée se fait, mais toujours dans l'amour. Donc il y a autorité de l'amour, il y a rigueur et miséricorde, mais c'est le Christ qui est le maître de l'accompagnement. L'accompagnateur ne doit jamais perdre cela de vue. Donc sinon, c'est l'autoritarisme. Il n'est plus un accompagnateur spirituel, il est un gourou.
Voilà, on est d'accord sur le thème de l'accompagnateur. Il a un rôle de serviteur, d'humble serviteur. Celui qui accompagne, c'est bien le Christ.
Il doit rester en permanence serviteur. le serviteur, celui qui accompagne, le maître, c'est le Christ. L'accompagnateur est un relais, il est là, il regarde, il aime, il donne la parole qui sauve, mais c'est toujours le Christ à travers lui qui la donne.
On parle d'accompagnement spirituel, de thérapeute presque. Il y a cette forme de paternité spirituelle dont vous parlez aussi dans ce livre.
J'en parle beaucoup, je parle de la paternité et de la maternité spirituelle.
Je vous en parle
des entrailles de miséricorde. Ouais. Et pour les pères, je cite bien sûr les pères de l'Église, et pour les pères, l'accompagnateur est un grand thérapeute, c'est le thérapeute de l'âme. Mais médecin, soigne-toi toi-même d'abord. Avant de vouloir accompagner les autres et de les accompagner vers la guérison, il faut avoir fait ce chemin soi-même et c'est très important. Donc s'il y a débordement, si jamais il y avait débordement, l'accompagnateur doit très vite se réajuster.
Merci Suzanne Josépi Testu pour cette intervention du jour. Je rappelle qu'on peut aussi découvrir, il est précieux, c'est un livre outil pour tous.
Je crois.
Oui, je crois aussi et je le conseille. Petit précis d'accompagnement spirituel, Vivre librement, paru aux éditions de Nouvelle Cité. À demain.
À demain.
À la même heure.